Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre balade musicale. J'espère que vous avez tous passé une très bonne semaine. Et quant à moi, je suis ravi de vous retrouver, on est ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui, j'aurai le très grand plaisir d'être en duplex avec deux invités, la violoniste Iris Sialom et le pianiste Antonin Bonnet, pour un très beau disque de sonates sorti sous le label Scala Music. Et nous découvrirons de nouvelles parutions de la 9e symphonie de Bruckner, des sonates pour piano de Prokofiev et des mélodies de Komitas, une figure vénérée de la culture arménienne.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Bonjour Iris Sialom.
Bonjour Christophe.
Bonjour Antonin Bonnet.
Bonjour Christophe.
Votre duo Arborescence signe un premier album raffiné, rendant hommage à Gabriel Fauré et à deux de ses élèves, Maurice Ravel et Georges Enesco. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux ?
On s'est rencontrés au Conservatoire de Paris. On était tous les deux étudiants là-bas.
Et pourquoi ce beau titre, Arborescence ?
Alors c'est un mot qu'on a trouvé dans un livre d'Aurélien Barraud qui s'appelle Météorite, c'est un livre de poèmes. Et Aurélien Barraud, c'est quelqu'un qui est très important pour nous, qui nous inspire beaucoup. Et ce mot nous a tout de suite parlé.
Quand vous avez décidé de former votre duo, aviez-vous des modèles parmi les duos fameux ? Je pense en France à celui de Christian Ferras, Pierre Barbizet.
Le duo Christian Ferras Pierre Barbizet m'a particulièrement touché pour l'interprétation d'une œuvre qui n'est pas au programme de ce disque, mais qui est la sonate de Lequeu, où je trouve qu'ils ont une version absolument sublime. Mais c'est plutôt un duo que nous avons découvert plus tard. Je pense que le duo personnellement qui m'a le plus inspiré ces dernières années, c'est le duo formé par Cédric Tiberghien et Alina Ibrahimova. J'ai eu la chance de m'étudier avec Cédric Tiberghien à l'Académie Jarowski et j'ai découvert donc sa discographie absolument immense avec Alina. Donc ils ont une intégrale de sonates de Beethoven, de Mozart, de Schubert, et chacun de leurs enregistrements pour moi a été une révélation.
Ah ben, ce sont des musiciens formidables tous les deux.
Oui, absolument. Et en plus, ce qui est assez rare, je pense, c'est que deux musiciens aussi accomplis individuellement fait un travail en duo aussi poussé, aussi profond. On sent que à la fois rien n'est laissé au hasard, mais en même temps se dégage une forme de liberté qui me semble précieuse.
Parmi le catalogue immense des sonates pour violon et piano, notamment au 19e siècle, début du 20e siècle, comment est-ce que vous avez fait pour choisir ces trois sonates dans votre premier disque ?
Alors déjà, la première sonate de Fauré, c'est la première œuvre que nous avons travaillée ensemble, quand nous avons débuté notre duo il y a environ 5 ans. Et donc pour nous, ça a signifié beaucoup, c'était un symbole fort. Et on s'est demandé ce qui pouvait aller bien avec cette première sonate de Fauré. Et on a commencé à se pencher du coup sur ses élèves au Conservatoire de Paris, puisque Fauré était professeur de composition là-bas. Et on a trouvé ces deux sonates qui sont un petit peu moins jouées, notamment la deuxième sonate d'Enesco. On a trouvé ça tout de suite passionnant. C'est deux musiques très différentes, de jeunes compositeurs qui ont déjà un langage très personnel. Mais on a trouvé ça très intéressant de voir des œuvres qui avaient été écrites dans le cadre de la classe de composition et qui avaient été jouées par les compositeurs eux-mêmes, devant le professeur. On a trouvé cette émulation très, très intéressante.
Je comprends bien. Écoutons le premier mouvement de la première sonate de Fauré par nos invités Iris Sialom, violon, Antonin Bonnet, piano.
Thank you.
Gabriel Fauré, c'était le premier mouvement de sa première sonate pour violon et piano, Iris Sialom et Antonin Bonnet, qui sont nos invités en balade musicale sur IDFM Radio. Comment avez-vous préparé l'enregistrement? Vous étiez ensemble ou vous étiez séparés ou comment ça s'est passé?
Alors déjà, on a commencé à préparer l'enregistrement à notre insu, si je puis dire, dès notre rencontre et notre première expérience de duo, puisque comme Iris vous l'a dit, c'était avec la première sonate de Fauré que nous avons commencé à jouer ensemble. Et ensuite, je pense que c'est une œuvre qui a mûri au fil des années. Et je pense que pour l'ensemble du CD, dès lors que nous avons eu conscience que nous préparions un enregistrement, déjà nous avons essayé de chercher à jouer ces œuvres devant le plus de personnes possible. Donc on a eu la chance d'être très bien guidés durant notre scolarité au Conservatoire de Paris, notamment par Claire Désert et François Salle, qui étaient nos professeurs de musique de chambre. Et ensuite, en particulier pour la sonate d'UNESCO, nous avons cherché à aller voir des personnes qui étaient spécialistes de ce répertoire, qui pour nous était une découverte totale. Donc nous avons eu la chance de la jouer à, par exemple, Mia Lamartine, qui était le professeur d'Iris, à Sarah Nemtanou, à Pierre-Yves Audy, qui connaît également très bien cette
pianiste.
Voilà, Pierre-Yves Audy, voilà, magnifique pianiste.
Et à Corinna Belchea aussi.
Ah oui, du quatuor Belchea, qui est premier violon. Effectivement, c'est un extraordinaire quatuor et une magnifique musicienne.
Oui.
Et à l'Académie de Villecroze, vous l'avez préparé, vous avez joué, parce que j'ai vu que vous aviez été en résidence, je crois, à cette académie.
Oui, voilà, on a eu une immense chance d'être en résidence à cette académie plusieurs fois. Donc à la fois pour des masterclass, mais aussi pour préparer spécifiquement cet enregistrement. Et voilà, c'est une chance inouïe, puisque l'Académie de Villecroze est un lieu paradisiaque et c'est une institution qui nous soutient beaucoup, donc on est extrêmement reconnaissant.
La sonate posthume de Ravel, en un seul mouvement, elle est beaucoup moins connue que celle qui a été publiée de son vivant avec le fameux deuxième mouvement Blues. Pourquoi plutôt ce choix, en réalité, de cette sonate qui est posthume et qui a été composée, je crois, juste un peu avant 1900 par un Ravel jeune, plutôt que la sonate que l'on connaît davantage?
Alors c'était, pour reprendre ce qu'a dit Iris tout à l'heure, cette idée de filiation, que c'est une sonate en fait qui a été créée par le compositeur au piano et Enesco au violon devant Gabriel Fauré. Donc c'est peut-être une sonate qui a un lien encore plus fort avec le programme qu'on avait choisi que la sonate, la deuxième sonate, voilà, qui est également magnifique. Mais qui nous semblait un peu moins pertinente que celle-ci pour le programme qu'on voulait créer.
Alors c'est une sonate qui n'est quand même pas tellement foréenne, non ?
Non, mais justement c'est intéressant de voir ce qu'un élève à cette époque-là écrit et en quoi il développe son propre langage déjà alors qu'il est encore dans la classe de Gabriel Fauré.
Ça me paraît effectivement très intéressant et j'approuve tout à fait votre choix. On va vous écouter tous les deux dans la sonate posthume de Ravel.
Thank you.
Ravel sonate posthume, Iris Sialom violon, Antonin Bonnet piano, qui sont nos invités en balade musicale sur IDFM Radio, extrait de votre premier disque magnifique, sorti sous le label Scala Musique, un label qui dispose de deux très belles salles de concert à Paris et une troisième en Avignon. Et justement, Iris, Antonin, il y a un concert de sortie prévu.
Oui, le 23 septembre à la Scala Paris, dans la petite salle, la Piccola.
Qui est parfaite pour la musique de chambre.
Oui, exactement.
Et ce sera à quelle heure?
À 19h15.
Iris, je crois que vous faites partie d'une famille de musiciens.
Oh, mes parents sont musiciens, ils sont professeurs.
Et quels violonistes vous ont le plus inspiré?
Beaucoup. Quand j'étais petite, j'étais très très inspirée par Perlman. Et puis, plus récemment, j'aime beaucoup ce que fait Janine Jansson.
Perlman, dont on célèbre le 80e anniversaire cette année.
Ah oui.
Et Janine Jansson, aussi, que vous avez eu l'occasion d'entendre.
Oui, je l'ai entendue en concerto plusieurs fois à la Philharmonie, évidemment. Et c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup pour les œuvres que je travaille et qui m'inspire beaucoup.
Et vous, Antonin, votre famille ne compte pas de musiciens professionnels, je crois?
Non. Mais ce sont des mélomanes qui ont pratiqué un instrument à peu près jusqu'à leur baccalauréat. Enfin, dans tous les cas, je parle de mes parents.
Oui.
Voilà.
Et avez-vous des pianistes qui figurent dans votre panthéon personnel, Antonin Bonnet?
Alors, je pense que j'ai découvert une partie du répertoire pour piano, du moins dans mon enfance, grâce à Arthur Rubinstein. Je me souviens que mes parents avaient acheté l'intégrale, enfin le Chopin Collection. Voilà, donc c'est
un trésor, discographique, oui.
Ouais, je me souviens de quelque chose qui m'a immédiatement captivé, parce que il y a quelque chose dans son jeu qui va droit au cœur. C'est un jeu sans artifice, avec une immense classe. Et voilà, et je ne sais pas si j'avais le formulé comme ça à l'époque, mais je me souviens avoir été immédiatement captivé et saisi par son jeu. Voilà.
Ben, ceux qui ont eu la chance d'être un peu plus âgés que vous, ce qui est mon cas, ont eu l'occasion d'entendre à plusieurs reprises Arthur Rubinstein en concerto, en musique de chambre et aussi en solo. Et je dois dire que même passé 80 ans, il avait encore des doigts formidables et une tête qui fonctionnait plus que bien. C'était un bonheur de l'entendre.
Ah oui, j'imagine, j'aurais aimé avoir cette chance.
Ah, on peut pas être jeune et avoir été, si je peux dire. Troisième pièce de votre nouveau disque, la sonate numéro 2 d'Enesco, que le public français connaît très peu, au regard par exemple de la troisième, moi je pensais à la troisième avec des enregistrements de Menuhin, avec sa sœur Hepzibah par exemple.
Oui, mais oui, la deuxième, on a eu plusieurs enregistrements qui nous ont beaucoup inspirés aussi.
Voilà. Donc, il y a notamment un enregistrement du compositeur lui-même avec Dino Lipati au piano. Donc
merveilleux pianiste qui nous a quitté beaucoup 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 trop tôt.
Oui, tout à fait. Et voilà, Enesco lui-même était non seulement un compositeur hors du commun, mais également un immense virtuose, non seulement du violon, mais aussi du piano. Et c'est un enregistrement très précieux, non seulement parce qu'il s'agit du compositeur lui-même, mais on sent que les interprètes sont absolument pas limités par leurs moyens, bien au contraire. Et je pense que à une époque actuelle où on essaye d'être extrêmement méticuleux sur le moindre détail, parfois peut-être en sacrifiant une sorte de liberté et de plaisir de jouer, on s'aperçoit de l'audace qui existait à l'époque chez ces interprètes. Voilà, il y a des subtils changements de tempi tout au long de cette interprétation. Voilà, il y a des glissades, il y a des choses vraiment vraiment extrêmement audacieuses et l'émotion finalement s'en retrouve décuplée.
Comment avez-vous découvert cette sonate d'Enesco?
En faisant des recherches autour de Fauré et de ses élèves.
Oui.
Et il nous a semblé qu'effectivement, elle était beaucoup moins jouée que la troisième. Alors certes, elle a un langage très très différent, mais il nous a semblé qu'elle était extrêmement belle et intéressante. Enfin, elle nous a tout de suite plu.
Elle l'est.
Voilà, et on a tout de suite apprécié la travailler, et au fur et à mesure, on a découvert de plus en plus de choses dans cette magnifique sonate.
Vous parliez tout à l'heure de Sarah Nemtanu, qui est d'origine roumaine, premier violon solo de l'Orchestre national de France, et maintenant, à partir du 1er janvier 26, premier violon solo de l'Orchestre de Paris. Est-ce qu'elle vous a donné des conseils pour cette sonate, pour l'interprétation?
Oui, très intéressant, et elle nous a, je pense, aussi donné des conseils de manière plus générale sur la manière de d'interpréter. Mais c'est vrai que sur certains détails de nuances et de comment mettre une voix légèrement plus en retrait par rapport à une autre, etc. Ça a été très très intéressant de découvrir ces petites subtilités qu'on n'avait pas forcément vues au premier abord sur cette partition d'Enesco.
On va vous écouter dans cette œuvre absolument magnifique, dans le troisième mouvement qui évoque parfois le violon tzigane. Georges Enesco, le final de la sonate numéro 2 pour violon et piano par Iris Sialom et Antonin Bonnet qui étaient nos invités sur IDFM Radio, extrait du premier disque de l'ordio Arborescence, un enregistrement absolument magnifique sorti sous le label Scala Music. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous, Christophe.
Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon concert de sortie de disque, bien sûr, à la Scala Piccola.
Merci, bonne journée à vous.
À bientôt, beaucoup, j'espère.
À bientôt.
À bientôt.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Le label Le Palais des Dégustateurs nous permet de redécouvrir l'immense talent du chef argentin Carlos Paita, avec notamment des rééditions de symphonies de Brahms, de Tchaïkovski, de Beethoven ou Shostakovich, dont nous avons d'ailleurs vanté tous les mérites à ce micro. Ce label nous propose une 9e symphonie d'Anton Bruckner dans un enregistrement de toute beauté de 1992, resté inédit. La 9e symphonie de Bruckner demeura inachevée et fut créée à Vienne en 1903. Elle comporte 3 mouvements. Voici le 2e mouvement, un scherzo, l'un des plus rapides sûrement jamais enregistrés, d'une puissance dévastatrice d'à peine plus de 8 minutes. Il commence par des pizzicati pour cordes et des enchaînements harmoniques très modernes pour l'époque. Une sorte de danse qui semble préfigurer le Sacre du printemps de Stravinsky ou la suite cite de Prokofiev.
We'll be right back.
Anton Bruckner sur IDFM Radio. Deuxième mouvement, Scherzo de la symphonie numéro 9. Carlos Paita était au pupitre du Philharmonic Symphony Orchestra, un très beau disque publié par le label Le Palais des Dégustateurs. Attendons avec impatience la suite de la publication du catalogue du grand chef argentin Carlos Paita que nous redécouvrons grâce à ce label et à la passion de son fondateur et producteur Éric Rouillet.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Le pianiste canadien David Jalbert poursuit son intégrale des sonates pour piano de Serge Prokofiev. Paru en 2021, le premier volume a été largement salué par la critique. David Jalbert est considéré comme l'un des 15 meilleurs pianistes canadiens de tous les temps. Lauréat de plusieurs concours internationaux, il s'est produit notamment aux côtés de chefs comme Yannick Nézet-Séguin, directeur musical du Metropolitan Opera de New York. Le deuxième volume, qui paraît sous le label Atma Classique, comprend les sonates 5 à 7. Écoutons le premier mouvement, Allegro Moderato, de la sonate pour piano numéro 6 en La majeure de Prokofiev, sous les doigts de David Jalbert. Serge Prokofiev sur IDFM Radio. David Jalbert interprétait le premier mouvement de la sixième sonate pour piano, dont voici maintenant le final, quatrième mouvement, Vivace. Thank you. Quelle virtuosité de la part du pianiste canadien David Jalbert. C'était le final de la sixième sonate de Prokofiev, extrait du deuxième volume de son intégrale qui paraît sous le label Atma Classique. Attendons avec impatience la prochaine parution de cette série.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Le père Comitas, docteur en théologie et en musicologie, compositeur et poète, a collecté plus de 3000 chants de la tradition populaire arménienne. Cette double œuvre de compositeur et de créateur est à l'origine de la sauvegarde et du renouveau de la musique arménienne. La soprano Asmik Torossian, née à Erevan en Arménie, et le pianiste italien Giulio Zappa publient le double album Sounds of Armenia sous le label Prima Classique. C'est un florilège de 30 mélodies du père Komitas. Émotion et beauté dans cette mélodie du père Komitas par la soprano Asmik Torossian avec le pianiste Giulio Zappa, avec lesquels nous allons refermer cette émission dans une autre mélodie de Komitas. nous venons de refermer notre balade musicale avec cette émouvante mélodie arménienne de Komitas. La soprano Asmik Tarossian était accompagnée par le pianiste Giulio Zappa dans un très beau disque, un double album sorti sous le label Atma Classique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain dimanche, 11h, pour une nouvelle balade musicale. Merci à Francky à la technique. Et d'ici là, restez bien sûr à l'écoute de nos programmes de IDFM Radio.